La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour à vous, Christian de Port-en-Part.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous virtuellement, comme toujours, contrainte sanitaire oblige, mais avec nous pour parler de ce que sera peut-être la ville de demain. D'abord, comprendre ensemble, avec vous, architecte et urbaniste, par là même, ce qui s'est joué dans nos villes dans ces dernières semaines. Pour beaucoup de citadins, et pas seulement de Parisiens, le confinement s'est terminé sur un rejet de la ville, une sorte de trop-plein. Tout ce qui fait la force de nos métropoles, les transports en commun, les lieux de culture, les lieux de sociabilité avaient disparu. Il restait que les mois. Pour beaucoup, manque de verre, manque d'air, saleté, autant de vices cachés de la ville d'aujourd'hui que la crise a révélé. Pour vous, Christian de Port-en-Part?
Oui, Elisabeth, avec qui je travaille et je vis, a fait pour le Moniteur en début de confinement un article qui était sur le besoin de ville, la révélation du besoin de ville que nous avons. En fait, ne plus pouvoir sortir, ne plus pouvoir éprouver le monde dans son entier, et les autres, ça nous a tous fait un changement énorme. Et un étonnement énorme, parce que je dirais, comment on pouvait imaginer, même la veille, que soudain, la machine planétaire de l'industrie, immense, totale, totalitaire presque, allait tout d'un coup s'arrêter. Sans qu'il y ait une autorité mondiale d'ailleurs, s'arrêter par des milliers de points de décision locales. C'était ahurissant. Est-ce que la valeur de la vie humaine a changé puisque la grippe espagnole, puisque la grippe asiatique de 68 a fait plus de morts et n'a pas donné lieu, moi je me souviens pas en 68 qu'on ait parlé de cette grippe, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu d'alerte, etc. Est-ce que la valeur de la vie humaine a changé? Est-ce que la peur des gouvernants est plus grande parce qu'il y a plus de communication sur des morts possibles? En réalité, je pense qu'il y a une responsabilisation différente par rapport à la vie, même s'il y a de la peur d'être ensuite accusé. La peur, elle est aussi concomitante avec une responsabilisation personnelle. Bruno Latour, je crois qu'il a eu raison de dire c'est quand même une surprise bonne par rapport à ce que l'autre crise plus grave qui nous attend, qui est celle de la planète, qui se manifeste de plus en plus à nous, c'est-à-dire que s'il y a une crise plus grave et qu'il y a des morts, hélas, il y aura sans doute des mesures qui seront prises, qui coordonneront des changements drastiques, c'est-à-dire qui effaceront la dépendance que nous allons à l'égard des énergies fossiles, dont on sait qu'elles sont destructrices de la planète et donc de nos possibilités d'y vivre. Et je crois que on a... Vous me parliez de l'espace de la ville, je pense qu'aussi nous vivons tous avec une sorte de solidarité avec le passé et nos ancêtres et nos parents, mais une solidarité avec les générations qui viennent et les enfants. Et je crois que ça, c'est pas tous les hommes qui l'ont, on peut se dire que Bolsonaro et Donald Trump ne s'en foutent, mais je pense qu'on est nombreux à avoir cette solidarité dans le temps, dans la génération, que c'est l'histoire humaine, que c'est l'identité de l'humanité, que c'est la valeur de l'humanité même, si je réatterris, je dirais volontiers que les villes sont la preuve tangible de ça. Dans les villes, il y a le passé immense, et puis il y a le présent qui est toujours en activité, et il y a le devenir, et alors là, on souhaite des transformations. Donc mon boulot d'architecte et d'urbaniste, ça a été l'impression que j'ai travaillé sur des morceaux de ville pour les changer. Et vous me demandez, mais qu'est-ce que sera la ville de demain? Je vais vous décevoir sur un petit point, je vais dire, elle sera pour 80% ou 85%, elle sera la ville d'aujourd'hui, parce qu'au fond, nos villes, elles sont en grande partie bâties, et que les quartiers de Paris que vous les aimez, et vos parents les aimaient déjà, ils existaient, et ils seront encore là dans 50 ans et dans un siècle, avec des transformations, avec des adaptations. Et nous avons besoin sans cesse d'adapter, de transformer, et... Le virus nous révèle peut-être qu'on a besoin d'espace, de verdure, de voir le ciel, de marcher et puis de se rencontrer et qu'un confinement… On me demande comment on va faire maintenant les logements. C'est sûr que les gens vont tous penser que le confinement pourrait revenir, mais il y a aussi des probabilités importantes qu'il ne revienne pas de sitôt et que dans 15 ans, ce soit oublié. Néanmoins, il y a un besoin plus grand de nature, d'ouverture. Et je peux dire que notre travail, dans notre atelier, il est porté beaucoup sur cette histoire d'ouverture. Ce que j'ai appelé les îlots ouverts, c'est justement ne faire entrer le soleil, la lumière, tout en préservant une sorte d'intimité du logement par rapport aux voisins. Une certaine, c'est une vie d'une petite société, un ensemble de logements dans un îlot dans une ville. Et donc, c'est un point sur lequel nous travaillons depuis très longtemps et que le confinement nous révèle que c'est effectivement un lieu de travail essentiel.
Voilà, parce que l'îlot ouvert, vous l'avez théorisé dans les années 80 déjà, Christian de Porzampar. Effectivement, aujourd'hui, cette notion, ce concept prend tout son sens. Juste, vous avez filé, vous avez évoqué les réactions et réflexions de Bruno Latour depuis quelques semaines. Le titre de son dernier essai était « Où atterrir ?» au sens large, au sens métaphorique du terme. J'aimerais vous poser la question à vous, Christian de Porzampar. Où atterrir ? Où est-ce que vous souhaiteriez atterrir aujourd'hui ?
Dans une société où ce que je disais sur cette solidarité ne soit pas détruite et on ne voit pas apparaître, si vous voulez, une guerre entre ceux qui veulent se protéger avant tout parce qu'ils en ont les moyens et après moi le déluge et les autres qui se trouvent dans une difficulté pour se protéger et ont peur. Donc on veut tout faire pour éviter cela. Et ça veut dire que c'est pas seulement une affaire d'architecture et d'urbanisme, bien sûr, c'est une affaire de relations entre nous, mais c'est aussi une affaire des mesures que l'on va prendre peu à peu. Et on sait que la construction, le bâtiment, la ville, les efforts que nous faisons sont responsables pour une très grande part des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie fossile. Donc on sait que c'est un domaine lourd et que en gros, face aux municipales par exemple, beaucoup de maires, pour calmer un peu une inquiétude, ils disent « rassurez-vous, on va pas construire beaucoup, on va construire très peu, on va planter beaucoup d'arbres ». Et je les comprends très bien de dire ça. En réalité, ils savent bien qu'ils vont être amenés à construire, qu'il y a des besoins. Et notre effort, et je dis pas qu'on ait toutes les solutions pour réussir tout de suite comme ça, mais l'effort qui se fait parmi tous les architectes, tous les entrepreneurs, les promoteurs, etc., c'est non seulement des logements qui seront plus faciles à vivre et ouverts, parce que on a tous conscience que être confiné, pour ceux qui ont été confinés dans 12 mètres carrés à 4, c'était très très difficile, c'était insurmontable, mais aussi les chantiers, l'utilisation du bois, une autre façon de construire, qui n'est pas la même rapport à l'énergie et pour tout le monde de plus en plus important. Alors ce que l'on peut craindre partout, c'est comme pour l'automobile, c'est que face à la difficulté économique qui se profile, eh bien on n'arrivera pas à être vertueux à ce point. Donc c'est tragique parce qu'on entre dans une période économique qui va être très difficile et on entend l'économie automobile qui dit d'accord, aidez-nous. Diminuez-nous les contraintes écologiques sur la fabrication des moteurs, etc. Ce qui est évidemment inquiétant parce que ça veut dire que quand on parle de monde d'après, à cause de la difficulté de l'économie, on risque de retourner dans un monde d'avant en moins bien.
Alors justement, juste avant la crise sanitaire, Christian de Porzampar, à l'approche du premier tour des municipales, vous déploriez ce silence des maires élus ou candidats sur la métropolisation. Les maires refusent de densifier, disiez-vous au Monde. Ils n'ont que le mot « verdure » à la bouche. Face à ce manque criant, il y a peu de chances quand même que les discours changent aujourd'hui. Face à ce manque criant pour les citadins d'espaces verts, d'espaces de respiration.
Oui,
mais pourquoi c'est regrettable ? À qui profiterait cette densification que vous évoquez ?
Non, je ne trouve pas que c'est regrettable. Je dis que ce n'est pas toujours réaliste. Quelquefois, il y a des endroits où tout est bien. Nous avons fait quelquefois des projets en avance et le tramway passe. Les deux écoles sont en construction et le maire, à cause des écologistes, quelquefois, a fait attention, je ne construirai pas ce quartier. Alors, vous n'avez pas les logements qui sont venus. Quelquefois, c'est illogique, mais ce n'est pas si fréquent. Et je comprends qu'il y a un mouvement pour tempérer l'effet de métropolisation qui tout de même fait une ville qui est plus consommatrice d'énergie, où il y a plus de gâchis, où il y a plus de distance à parcourir, qu'il y ait un retour vers les villes moyennes et plus petites, je pense que c'est une vertu. Je pense qu'on n'a pas, besoin de métropoliser à fond. Et si on a eu cette métropolisation forte, c'est aussi parce qu'il y a un attrait, une attraction de la ville pour apporter du travail, pour apporter des études, pour apporter même des distractions, pour sortir de son village et trouver l'homme ou la femme de sa vie, parce que c'est quelque chose qui est plus universel, la ville. Et ça, c'est dans tous les pays. On le voit bien, même les endroits où les campagnes sont les plus pauvres au Brésil, j'ai eu l'occasion de discussions comme ça, et les gens me disaient « Non, c'est terrible, je suis pêcheur, on vit bien, mais mes enfants, ils veulent absolument aller à São Paulo, ils veulent pas faire ma vie. » Et cette vie, on se dit, ben, là, ils sont privilégiés, ils ont une vie pas très riche, mais très sûre et agréable. Donc, il y a un attrait de la très grande ville, et peut-être que cet attrait va un peu diminuer, parce que les défauts sont importants, de même qu'on peut dire que cette mondialisation, nous sommes dépassés. Et nous n'êtes pas les premiers à le voir, c'était annoncé depuis longtemps par un certain nombre de gens, l'ère technique, l'extraordinaire progrès depuis deux siècles et encore plus depuis l'après-guerre, le progrès de l'ère technique fait c'est une immense machine qui nous dépasse, nous ne prenons plus les décisions, nous ne contrôlons pas, et c'est la logique technique qui règle le fait qu'on fait fabriquer en Inde, c'est une logique économique financière, c'est une logique technique et c'est une possibilité de transport par bateau, c'est une possibilité de transport aérien, et c'est une possibilité de plus en plus de la cyber-économie ou des cyber-communications, de faire les choses à distance. Et on s'aperçoit que sur beaucoup de points, personne n'a été méchant et n'a fait mal. C'est tout ce système technique qui gouverne en fait l'économie mondiale et l'humanité. Il a sa propre logique. Et ça, je crois qu'on aura tendance à essayer de revenir là-dessus, de relocaliser et de tempérer, si vous voulez, cette frénésie mondialisatrice qui marche toute seule. Donc, c'est évidemment ce que je dis là, j'ai l'air de faire un vœu pieux, mais quand on parle de l'après, c'est bien ça dont il est question sur le plan international, c'est est-ce que nous saurons reprendre pied à partir du local ? Manger davantage local de plus en plus, c'est une nécessité absolue, d'arriver à ce que nous ne soyons pas dépendants et qu'une crise nouvelle ne nous rende trop dépendants, parce que même l'alimentation basique n'arrivera plus dans certains pays.
Mais vous avez raison, c'est probablement la question du global et du local, mais c'est aussi la question de la taille et de la démesure dans laquelle nous avons basculé. Et ça vaut aussi pour certains projets architecturaux, urbains. C'est aussi la question du petit et du grand, du monumental et de l'échelle que l'on veut pour l'avenir.
Hein. Absolument. Et peut-être le temps, la planification est nécessaire toujours. Peut-être qu'elle doit être plus adaptée à des changements année après année et que les projets se feront plus morceau par morceau, non pas dans le même rythme. Je suis pas contre la grandeur. Là, je disais que nous n'avons pas besoin de courir à la grandeur, mais elle vient toute seule. Le maire de Grenoble, sur un projet, me disait « Il est très bien placé ce projet, il est à 700 mètres de la gare, vous avez raison, mais je n'ai pas de croissance démographique. » Et je lui disais « Mais vous n'avez pas dans le territoire de Grenoble, mais regardez, toutes les communes autour sont en croissance. » Qu'est-ce qui se fait ? C'est que si un maire voulait limiter la croissance de sa métropole, ben c'est autour que la pression viendrait et qu'elle se ferait. Donc, de plus en plus, on a des communautés de communes, on a des organisations qui permettent de suivre ça. Et c'est un des enjeux de savoir quelle est partout, quelle est la croissance souhaitée des villes. Et je pense que les gens, c'est très classique, ne souhaitent pas qu'ils aient plus de voisins, ils ne souhaitent pas grandir. Donc, si on écoutait tous les besoins des gens, on dirait ben, on ne va pas faire de nouvelles constructions et on ne va pas créer ex nihilo des nouvelles villes à la campagne. Donc, il y a forcément des besoins mais on est très il faut être très vigilant. Il faut préserver la capacité, si vous voulez. On ne peut pas dire que tout le monde va avoir sa maisonnette dans un jardin, parce qu'on construirait à ce moment-là de Rennes à Saint-Malo non-stop. Il faut bien qu'on ait des endroits qui sont la ville, et il y a les qualités civilisatrices de la ville qui sont très grandes, qu'il ne faut pas nier, et que l'école ne soit pas trop loin, que le travail ne soit pas trop trop loin non plus, que les administrations, les commerces, on les ait à portée de la main. Mais ça veut dire une urbanisation qui est capable de préserver des jardins, d'apporter du soleil et de l'ombre. Et je crois que ça, c'est très important. Et on a travaillé tout le temps sur cette idée. Il faut garder une certaine efficacité de la ville, au sens que un territoire peut loger ici 100 habitants, là 500 habitants, et ne pas étaler et faire comme on fait couramment. On sait qu'on mange quelques terrains de football chaque semaine de nature avec l'urbanisation en France. La campagne perd du terrain et on sait que c'est un problème. Et on a une reconversion du système agricole que tout le monde souhaite tout de même par rapport à l'agriculture industrialisée, mécanisée, et qui permette de consommer et de manger ce qui ne vient pas de trop loin. Bon, c'est un souhait de tous. Ça a l'air un souhait de bourgeois nantis, peut-être pour certains, parce que le système n'est pas encore organisé pour que les prix pour tout le monde viennent d'une agriculture de proximité, etc. Mais c'est quand même la tendance vers laquelle on doit aller.
Et genre, c'est tout de même...
Pardon ?
Oui, non, c'est la tendance vers laquelle on doit aller et qu'elle soit profitable à tous, à vous entendre, Christian de Port-Sempart. J'en reviens.
Profitable à tous, comme vous dites, sinon... On aura une nourriture à deux vitesses. Enfin, on aura deux. On a un peu ça aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas faire très attention à d'où vient sa nourriture, c'est évident.
Comme on a un logement à deux vitesses aussi. Vous l'évoquiez, 80% des villes sont déjà bâties et la ville de demain ne sera pas complètement transformée, même si on essaie de prendre en compte ce que cette crise sanitaire nous a dit. Un projet, et vous insistez beaucoup là-dessus, se pense comme un ensemble avec la zone de vie dans laquelle il s'inscrit. On a ressenti ça comme citadin, ce sentiment d'être claquemurés dans des appartements plus ou moins grands. On a remarqué l'absence de cours derrière les façades. Confinés, emmurés, il ne faudrait pas que ces deux termes se retrouvent. Et c'est aussi ce que vous tentez d'imaginer à travers vos projets, Christian de Port-Sempart. Je voulais vous faire écouter juste les mots de l'un de vos confrères. Il s'appelle Patrick Bouchain, il est architecte lui aussi. On l'écoute.
L'harmonie, c'est ce qui fait la forme de l'architecture. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas de destination. Il faut dire qu'on a des volumes habitables, on a des volumes reversibles et on a des activités nécessaires. Et les activités, vous ne pouvez pas le prévoir. Quand vous vous mariez, vous ne savez pas que vous allez divorcer. Et quand vous regardez dans les cités, parce que moi, j'y suis allé dans les cités au moment du confinement pour voir justement ce qu'on se permettait de dire qu'ils ne respectaient pas. Vous voyez, on disait « Ah, mais là-bas, ils sortent ». Mais on a vu une réappropriation de l'espace public, justement au pied des cités, qui est un dehors, dont le dehors est le prolongement du dedans. Vous ne pouvez pas avoir un logement qui ne serait qu'un logement fermé. Nous, les bourgeois, on a un dehors, on a une résidence secondaire. Et qu'est-ce qu'on a entendu ? « Ah, le confinement, c'est formidable. Maintenant, j'entends les petits oiseaux, j'ouvre mes volets et je vais acheter moi-même mon pain à pied, et ainsi de suite. » Vous voyez, c'est scandaleux. C'est comme si nous, le confinement, parce qu'on a deux résidences, on a pu le supporter.
Quelle est votre définition, à vous, de l'harmonie, Christian de Port-Sempart ?
Deux définitions. L'une, dans mon travail, c'est quelque chose que je dirais, qu'on partage en concevant les projets avec mon équipe. C'est quelque chose qui est difficile à définir, puisque ça tient à beaucoup de sens, des proportions, un goût pour les contrastes, le grand, le petit, l'arrivée de la lumière, du soleil. C'est tout un ensemble avec plein de règles, mais l'harmonie, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'inégalité, de violence. C'est un peu un autre volet, si vous voulez, et que ce que raconte Patrick Bouchain là, c'est d'être conscient que, évidemment, il y a une grande différence. Le confinement nous a révélé un peu plus les inégalités physiques sur le plan du logement. Elles nous ramènent vers quelque chose que nous avons tendance à oublier. L'importance de l'espace physique, j'en parle très souvent, et l'évidence que, eh bien, il y a des quartiers où ce confinement était plus dur à vivre que d'autres, bien évidemment. Et il a raison, Patrick Bouchain, de dire que En fait, nous habitons un logement, mais nous habitons aussi un quartier, une rue, une cour, un jardin. Nous partageons un extérieur avec d'autres. Souvent, on se paye le luxe de pas trop connaître nos voisins en se disant on est tranquille, mais en réalité, on est quand même un certain nombre à l'hectare. Et c'est quand on a la possibilité de sortir ou de choisir ce qu'on peut faire et qu'on a assez de place chez soi, c'est plus facile que lorsqu'il n'y a pas cet espace commun. Et l'espace commun de la ville, même quand il n'est pas très prévu pour, comme dans les cités, ben il redevient l'espace de la sociabilité et des rapports entre les gens. Donc c'est très important. Ce besoin de ville, je le résume souvent au fait que j'ai toujours travaillé à réhabiliter la rue. Vous savez que la rue a été interdite pour les urbanistes au milieu du siècle. Mort à la rue, disait Le Corbusier, il trouvait que c'était un outil ancestral, ancien, qui faisait l'erreur de tout mélanger, les commerces, les piétons, les institutions, tous les modes de transport, tout ça mélangé sur rue, l'habitat, le travail. Et en réalité, cette rue où tout se mélange est une merveilleuse vie quotidienne, et elle apporte quelque chose dont nous avons compris l'importance en étant confinés, en étant interdits de rue, si vous voulez.
Christian de Porzempart, on va écouter quelques notes. Ça a commencé à jouer derrière vous lorsque vous nous parliez de la rue, de cet album de soutien aux soignants, Symphonie pour la vie, avec Nemanja Radulović au violon, Harmonie, Solidarité. La valse, extrait de 5 pièces pour 2 violons et piano de Shostakovich. On entendait avec Radulović au violon et Hugues Borsarello, ainsi que Laure Favre-Kahn au piano. C'est un projet collectif d'artistes solidaires regroupant quelques-uns des plus grands noms de la scène classique française. Voilà pour cet album dont les bénéfices iront à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, enregistré dans les conditions sanitaires qu'il faut à la scène musicale à Boulogne-Billancourt.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il y a toujours des éléments autobiographiques dans l'archi, quoi. L'archi parle de qui vous êtes. Si vous n'êtes pas simplement dans la copie ou dans la reproduction de l'autre. Donc, mon archi est assez bavard, pittoresque. Elle est pleine d'accidents. Voilà, elle n'est pas du tout dans la pureté, par exemple.
Voilà, et notre invité aujourd'hui jusqu'à 12h30, c'est-à-dire quelques minutes encore, est l'architecte Christian de Porzempart, avec qui nous parlons du logement aujourd'hui, vu et revu à l'aune de cette crise sanitaire. Là, vous venez d'entendre la voix de Roland Castro, qui parle de son architecture comme d'une architecture bavarde. Et vous, votre archi, que nous dit-elle de vous, Christian de Porzempart, de votre personnalité, de ce d'où vous venez?
J'aime bien être dans une sorte de tension contradictoire entre un désir de pureté, de calme, vous savez, on a comme besoin d'un oasis partout, et puis un désir, au contraire, de diversité, voire de folie, d'exubérance. Et je trouve que ce qui est beau, c'est d'avoir à la fois la rue Mouffetard aux heures du marché avec un monde fou, et en même temps, des endroits où un jardin est calme et où le soleil va se coucher et où on peut parler tranquillement. Et je pense qu'on a besoin de ces deux aspects.
Alors ça, c'est peut-être le fil conducteur de toutes vos constructions, de vos réalisations. Et vous avez conçu beaucoup de lieux de culture, hein, comme la Cité des Arts de Rio, celle de la musique de Paris, la Villa du Luxembourg, le Grand Théâtre de Casablanca. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a demandé aux théâtres, aux salles de cinéma, aux salles de concert de répondre et de s'adapter à la contrainte sanitaire pour avoir le droit de rouvrir. Vous pensez que c'est des cas de figure que vous anticiperez désormais, comme architecte, quand vous penserez à des bâtiments, cette possibilité, cet inconnu? Vous allez essayer de l'anticiper et de l'intégrer dans vos réalisations futures?
Je crois que c'est très difficile de dire, par exemple, on va faire un théâtre où il y aura deux fois moins de spectateurs et le gérant du théâtre s'y retrouvera. Donc, je crois que ça ne durera qu'un temps, il faut être réaliste. Mais par contre, les quartiers, la ville, le logement, sûrement nous aurons des discussions plus intéressantes. Alain Taravella, qui est le président de Cogedim, m'a appelé pendant le confinement en me disant « Vous croyez pas qu'il faudra qu'on repense le modèle sur lequel on construit les logements ?» Vous voyez, les interrogations sont donc partagées ou partageables sur ces questions de fond qui met en jeu notre vie et la vie de chacun. Et sur les lieux de culture, on les fait avec un grand plaisir parce que c'est un endroit où les gens vont se rassembler, parce que c'est un endroit où il y a une esthétique, une harmonie à inventer qui n'est jamais la même. Et donc c'est un peu une passion égoïste, je vais dire presque. Ça veut dire on donne quelque chose, mais on a un grand plaisir à le faire, à découvrir quelque chose. Et cette passion, elle est présente dans tous les projets, aussi dans les projets de logement, d'habitation. Créer un lieu harmonieux, comme vous dites, je ne garderai ce mot, créer un lieu vivant qui a une certaine exubérance, pour reprendre ce que disait Roland Castro, mais aussi donner de la pureté, du calme, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Les architectes, mes collègues, les architectes modernes, en gros, sont très, protestants. Donc, ils vont vers l'idée que moins il y en a, mieux c'est. Il y a une peur. Le goût de l'époque, c'est d'être pur et de ne pas avoir trop d'effets. Et on constate que c'est vrai que c'est ça qu'on préfère en général. Mais en même temps, je trouve que il faut savoir inclure dans une ville la diversité du monde, parce que s'il n'y a rien à faire, si vous prenez 5 architectes, vous aurez un zoo. Chacun va faire son animal à lui avec une passion égoïste et personnelle. Et donc, sur un certain nombre de quartiers où nous travaillons, nous sommes en face de cette question de comment harmoniser et mettre ensemble des égos qui sont différents, disparates. Et c'est peut-être quelquefois une voie pour penser l'harmonie de demain, c'est une harmonie plurielle qui est faite de...
L'échange, oui, ça commence par le dialogue entre vous. Il va falloir qu'on s'arrête, pardon Christian de Porzempart, c'est déjà la fin. Merci beaucoup. L'hiver dernier, on vous a vu exposer aussi en galerie, non pas des plans ni des maquettes, mais vos peintures. L'architecte, il est entre l'artiste et l'artisan. Et parfois, c'est l'artiste qui est proche de l'architecte. On va voir ça dans la deuxième partie de l'émission, avec un retour sur l'œuvre de Christo, qui était, on l'imagine, un artiste qui devait vous toucher parce qu'il nous invitait à regarder des édifices, des bâtiments, des monuments autrement. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Christian de Porzempart.